34 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui dans l'Est et le Sud de la France, nous disait Clara Lecoq-Réal dans ses différents journaux. La canicule semble s'installer jusqu'en début de semaine prochaine. Alors au-delà de phénomènes exceptionnels et circonscrits dans le temps comme celui-ci, quels impacts aura le changement climatique sur notre économie? Il peut paraître un peu cynique de parler d'économie quand la maison brûle, et au sens propre d'ailleurs cet été, mais peut-être est-ce ce qui finira par convaincre les politiques d'agir. Bonjour Elisa Lanzi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à la direction de l'environnement de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous avez coordonné, co-rédigé le dernier rapport de l'OCDE sur les conséquences économiques du changement climatique. Est-ce qu'on peut d'abord prendre un peu le temps de parler de votre méthode de travail, votre méthodologie? Quand on parle réchauffement ou dérèglement climatique, on doit par définition se contenter de projections. Comment avez-vous procédé pour calculer les conséquences économiques du changement climatique ?
Bien sûr, l'utilisation des modèles dans ces contextes est très importante puisqu'on veut regarder au futur. Donc dans ce sens, nous, on a mis en place un système de plusieurs modèles ensemble. Donc on a au départ un modèle qui fait des projections économiques dans le futur. Donc on prend des informations sur le développement, par exemple, futur des populations, mais aussi de la croissance économique pour les différents pays.
Des informations que vous fournissez, par exemple, la Banque mondiale ou pour la population, l'INED ou je ne sais.
Oui. C'est plutôt les Nations unies et par rapport à la croissance pour la population et pour la croissance économique, c'est les départements d'économie de l'OCDE, donc c'est des projections internes pour nous. Donc on utilise plusieurs informations de ces types pour créer des projections économiques au niveau global. Les projections économiques peuvent être liées à des projections des par exemple des CO2, des gaz à effet de serre. Et à partir de cela, on utilise un module climatique pour calculer les changements de température dans le futur. Après, les changements de température peuvent être liés aux impacts pour différents types d'impacts des changements climatiques. Une fois, par exemple, sur l'agriculture, les zones côtières, etc. Après, ces impacts peuvent être liés encore une fois aux impacts, aux effets sur l'économie, aux coûts sur l'économie. Et c'est là, on les remet dans notre modèle économique pour calculer un coût total pour l'économie.
Mais pour vous projeter, est-ce que vous devez aussi voir ce qui s'est passé, par exemple, les 30 dernières années, c'est-à-dire regarder l'évolution de courbes et voir comment elles coïncident ou pas?
Alors, pour ce qui concerne les impacts du changement climatique, oui, les données qu'on utilise pour créer les projections sont basées aussi, bien sûr, sur ce qui se passait dans les passés. Dans une manière similaire, la calibration du modèle économique dans le futur dépend aussi des informations sur comment, par exemple, les secteurs se développent au fur et à mesure du temps. On se base sur ce qui s'est passé dans le passé. Par contre, c'est un modèle économique qui n'est pas un modèle des prévisions. Donc, c'est plutôt un modèle qui donne une idée de ce qui peut se passer dans le futur.
Mais d'autant qu'on ne sait pas si les changements qui ont affecté les différents secteurs ces 30 dernières années sont nécessairement liés au climat, par exemple. Donc, il y a plein de variables et d'incertitudes qui entrent en compte.
Oui, il y a bien sûr plein de variables et d'incertitudes. Après, la relation entre, par exemple, les émissions et le climat est assez, et les changements de température et les impacts du changement climatique est assez établie. Donc, disons qu'il y a des effets d'incertitude, mais c'est quand même des effets qui sont assez sûrs.
Alors, on peut prendre les secteurs et les sujets les uns après les autres. Vous évoquiez l'agriculture et il nous paraissait important de s'attarder un peu sur l'agriculture. Vous écrivez vous-même dans ce rapport que ce sont les changements dans les rendements des cultures et dans la productivité du travail qui auront les répercussions négatives les plus marquées sur l'économie. Vous parlez de quoi ? De la qualité des terres, de la mortalité des animaux d'élevage ? De quelle agriculture parle-t-on ?
Oui, donc pour l'agriculture, les exemples sont assez simples. Les rendements agricoles sont extrêmement sensibles au changement des climats. Donc dès qu'il fait très chaud, surtout sur des périodes prolongées, les rendements agricoles baissent, voire parfois il y a vraiment des grosses crises, comme on connaît même bien en France. En revanche, dès qu'il pleut trop, on a d'autres types de problèmes, donc mis à part les inondations, quand il pleut trop, pareil, les rendements agricoles peuvent en souffrir et baisser. Donc dans un contexte où dans le futur, avec les changements climatiques, il y aura beaucoup plus des canicules et beaucoup plus d'événements extrêmes aussi au niveau des précipitations, les secteurs agricoles peuvent carrément être endommagés, avec des conséquences bien sûr importantes sur l'économie.
On ne peut pas comparer toutes les cultures. Quelles sont les cultures qui peut-être peuvent le mieux s'adapter ?
Oui, donc bien sûr, il y a pas seulement un type, il y a des types de cultures qui peuvent mieux s'adapter au climat, mais aussi c'est un choix des agriculteurs, comment utiliser leur terrain, donc peut-être aller sur des céréales plutôt que d'autres types des cultures.
Ceci dit, les céréales peuvent s'enflammer très rapidement et on a vu par exemple en Russie, il arrive souvent que l'été, plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles soient ravagés par les flammes.
Bien sûr, en revanche, par exemple, souvent les fruits peuvent souffrir plus des problèmes de précipitations au niveau de la vente des produits après. Donc c'est justement ça les choix. Et qu'est-ce qui va se passer où j'habite ? Est-ce que ça sera plutôt un problème des canicules ou plutôt un problème des hausses des précipitations, fréquence des précipitations ? Et justement c'est ça les choix. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a justement beaucoup d'incertitudes. Et dans ces contextes, une des réactions des agriculteurs peut être d'investir plus dans des assurances qui peuvent les aider quand on a des moments justement difficiles.
La financiarisation du risque, d'ailleurs, on en parlera parce que parfois elle prend le pas sur les politiques publiques et la vraie réflexion. Et l'État parfois se décharge un peu sur les assurances sur ces questions-là. Les pays les plus affectés seront évidemment ceux dont l'économie repose sur l'agriculture, ceux qui ont misé sur l'exploitation de leurs ressources naturelles pour leur développement.
Donc, oui, on a bien sûr, les continents, surtout les continents d'Asie, donc par exemple l'Inde, l'Indonésie, mais aussi des pays d'Afrique. Et aussi, on peut voir des différences importantes dans différents pays OCDE. Par exemple, la France a quand même un secteur agricole qui est assez important au niveau de son économie par rapport à d'autres pays où le secteur agricole est moins important. Et dans ces sens, aussi, la différence au niveau du commerce peut être très importante quand un pays et ses pays voisins n'utilisent pas l'agriculture de la même façon.
D'ailleurs, on redoute d'ores et déjà une flambée des prix alimentaires qui pourrait atteindre 12% en 2030 jusqu'à 70% à l'horizon 2080. Nécessairement, ces pays-là seront les plus touchés. L'économie de la Côte d'Ivoire, par exemple, dont la Banque mondiale a dit le mois dernier qu'elle était parmi les plus menacées par le réchauffement climatique, en particulier la filière du cacao, qui représente 10% du PIB, qui fait vivre 5 millions de personnes. Ça fait un cinquième de la population. Est-ce qu'on peut, à l'inverse, se dire que des pays aux latitudes plus élevées, comme le Canada ou la Russie, vont être plus fertiles, puisque vous réfléchissez à une, vous avez une réflexion globale sur l'économie?
Alors, il y a deux facteurs qui influencent, disons, ce type de pays. Dans un côté, effectivement, ils vont souffrir moins des changements climatiques et même, ils peuvent gagner du terrain où on peut mettre des cultures et du coup, gagner au niveau des effets finaux de changement climatique sur l'agriculture. Il y a aussi une question de commerce international. Donc, si eux, ils sont moins endommagés ou alors ils peuvent même gagner par rapport à d'autres pays qui sont en revanche endommagés et ils vont avoir un avantage économique. Et du coup, au total, ils peuvent effectivement avoir gagner au moins dans le secteur agricole grâce au changement climatique.
Le nord de l'Europe pourrait se mettre à produire du vin. La carte des vins dans le monde a déjà commencé à changer.
Ça, c'est un exemple typique. Les vins passera peut-être de la zone de Bordeaux plutôt au Royaume-Uni. Alors, ça semble assez même un peu ironique, mais c'est effectivement une possibilité envisagée. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, il fait très chaud au Royaume-Uni. Donc, ça pourrait bien arriver qu'ils se mettent à cultiver du vin et que nous, on en perdra.
Ceci dit, les viticulteurs en France vous diront que dans ces cas-là, quand il fait très chaud, il suffit d'avancer un peu la date des vendanges et que ce n'est pas parce qu'il fera plus chaud dans le Beaujolais qu'avant que les vins du Beaujolais auront le goût des vins de Tunisie. Les viticulteurs, les agriculteurs français, ils sont déjà affectés, alors pas seulement par une hausse des températures, mais en tout cas, ils vous disent que les dérèglements climatiques, depuis quelques années, ils les connaissent, et notamment les coups de gel qui peuvent détruire jusqu'à 90% d'une récolte. Par exemple, l'année dernière, dans le Loiret, où les viticulteurs vous disent bien que ces coups de gel ne vont qu'en se rapprochant. Est-ce que vous n'étudiez que l'impact des hausses de température sur l'économie, ou vous prenez tous les risques en considération ?
Alors, nous, on utilise comme indicateur la hausse de la température, effectivement. Mais les modèles qu'on a utilisés par rapport aux impacts n'utilisent pas que ça. Pour nous, c'est un indicateur des références. Mais après, les modèles, ils utilisent justement aussi la fréquence des températures très hautes, très basses. Et comment ça, et aussi des précipitations. Donc, indirectement, on utilise plus que les changements de température. Et ça, c'est très important parce que quand on pense au réchauffement climatique, on pense au changement de température et qu'il fera très chaud. Mais au fait, les changements climatiques, c'est beaucoup plus compliqué et c'est justement les changements des saisons, les coups des gels, les événements des neiges quand on ne s'attend pas, et précipitations, etc.
Ce qui rend évidemment des études comme la vôtre très difficiles à faire, et on est dans la projection, les hypothèses. Alors au-delà, outre l'agriculture, vous évoquez la croissance économique dans son ensemble, les effets des changements climatiques sur la production, sur les facteurs de production, effet sur la productivité dont l'Organisation internationale du travail, dans une étude récente, chiffre les pertes à 2000 milliards de dollars par an. C'était en 2013. Ça veut dire quoi? Plus il fait chaud et moins on est productif. Comment, là encore, on parvient à ces chiffres?
Tout à fait. Effectivement, c'est très simple. Quand il fait chaud, on se réveille tous, on a mal dormi, on est moins efficace. Alors, c'est relativement simple pour des personnes qui travaillent dans un bureau. Ils ont souvent la climatisation, donc ça les affecte un peu moins.
Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque la climatisation va finir par contribuer au réchauffement climatique.
Mais si on pense plutôt aux gens qui travaillent dans la rue, les travaux publics, etc., imaginez passer la journée avec la chaleur à travailler, on est carrément moins efficace que quand il fait frais et on peut travailler plus tranquillement. Pareil pour des agriculteurs qui sont dehors, etc. Donc, les changements climatiques, ils ont quand même un impact assez important.
Il y a des pays qui ont choisi de décaler leurs horaires de travail quand il fait chaud?
Je crois que c'est autorisé, même par exemple en Espagne, si j'ai vécu un peu là-bas, ils autorisent même en période des siestes. Mais ça va un peu au-delà de ça. Ça peut être aussi des gens qui tombent malades, ils ne se sentent vraiment pas d'aller au travail. Et dans ce sens-là, ça affecte aussi la productivité totale du travail quand on la pense comme combien d'heures on travaille par mois, par exemple.
C'est ce que racontent aussi les chefs d'entreprise en Algérie, par exemple, où les températures ont grimpé jusqu'à 49 degrés à l'ombre et 65 au soleil au mois de juillet. Conséquence, coupure d'électricité multiple, accès à l'eau courante difficile, ça impacte aussi la croissance, l'activité économique d'un pays. En ce qui concerne la demande d'énergie, on est encore sur des impacts économiques, est-ce que la hausse de la demande de climatisation est compensée par la baisse de la demande de chauffage?
Souvent, ça dépend des pays, mais il y a des pays, par exemple, où on a un total, une baisse du chauffage plus importante. Ça, l'exemple, c'est la Russie. Il y a beaucoup plus pour les chauffages qu'il y a une hausse des climatisations. Dans d'autres pays, comme le sud de l'Europe, par exemple, ça sera plus la demande pour la climatisation qui prévalera.
L'air conditionné qui représente chaque année 6% de l'électricité produite aux États-Unis, bien souvent grâce au charbon d'ailleurs, et c'est le monde diplomatique qui disait qu'il y a encore 2 ans, les États-Unis consommaient autant d'électricité pour refroidir leurs bâtiments que l'Afrique pour l'ensemble de ses usages. Et puis la climatisation nous a finalement fait perdre l'habitude d'adapter notre activité aux températures extérieures.
Tout à fait, ouais.
Je crois que pendant longtemps, les fortes chaleurs étaient suivies 9 mois plus tard d'une baisse des naissances, et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, forcément, ça aussi, ça a un impact sur notre économie.
Oui, absolument.
Ouais. Bon, les énergies renouvelables, un secteur qui devrait tirer son épingle du jeu.
Dans
votre étude, vous avez étudié particulièrement le secteur des énergies renouvelables et l'impact de ces changements climatiques sur ce secteur-là?
Non, on n'a pas fait ça directement. C'était plutôt vraiment l'effet réchauffement, utilisation des clims. Par contre, il y a des interactions très importantes qu'on a fait dans un rapport séparé avec la production de l'énergie. Et on pense par exemple, quand il fait très chaud, on aura moins de disponibilité d'eau. Et ça affecte aussi la production d'énergie, surtout par les centrales nucléaires. Donc souvent, ils ne peuvent pas utiliser beaucoup d'eau parce qu'il y a moins de disponibilité et ça risque d'affecter la qualité de l'eau. Donc on termine par utiliser d'autres sources souvent moins vertes des productions d'énergie. Et ça a des impacts économiques aussi. autre que sur les émissions, en fait.
Question un peu peut-être cynique, mais qui doit à mon avis être posée. Est-ce qu'il y a ici et là des gains économiques à attendre des changements climatiques ?
Dans plusieurs régions, oui, par rapport à une hausse de la productivité agricole, comme on disait avant. Mais au niveau global, et même pour la plupart des régions, non, généralement, nous, on trouve que sur les 25 régions qu'on considère, 23 vont perdre au changement climatique, même si souvent, au niveau de l'économie agrégée, c'est pas des gros pourcentages, on va plutôt vers les négatifs que les positifs.
Impact sur le tourisme, vous l'avez étudié ?
Oui, on a inclus ça aussi, et je trouve ce sujet particulièrement intéressant, parce qu'on le voit un peu plus facilement aussi dans la vie des tous les jours, dans le sens que on entend parler souvent de quand, si on parle de destination vacances, on ne veut pas aller dans les endroits où il fait très chaud, ou alors on s'inquiète de, par exemple de la hausse de la mer à Venise, donc on dit on ne va pas à Venise en automne, etc. Donc on a étudié ça aussi et on trouve que bon, par rapport à d'autres impacts, c'est moins important, mais ça affecte quand même les économies.
Ça va aussi redessiner sans doute la carte touristique. Je pense par exemple aux îles menacées de disparition, l'atoll de Bikini dans le Pacifique, qui a demandé l'exil climatique aux États-Unis. Donc globalement, le secteur des services serait le moins touché par la hausse des températures ou les changements climatiques.
C'est moins touché par rapport à les secteurs qui sont plus basé sur les ressources naturelles, mais on peut s'attendre à voir un changement là aussi au niveau de la demande, oui, des destinations touristiques, de l'utilisation même au niveau des services de l'énergie et en manière différente. Aussi de comment on peut les construire au niveau des commerces internationaux. Les choix des produits, ça ne sera pas le même dans un contexte de changement climatique.
Par exemple ?
Par exemple, si on n'est pas sûr qu'il y ait un pays d'où on achète les tomates, va en produire parce qu'il y a beaucoup plus de canicules ou plus de précipitations, on va importer d'un autre pays. Donc ça va changer la carte du commerce international.
Les conséquences du changement climatique sur la santé, là encore, quelles courbes vous ont intéressé pour vos conclusions ?
Donc il y a un parti, ce qu'on avait déjà discuté, c'est ce qui impacte avec la chaleur, la productivité du travail aussi, qui peut amener à beaucoup de cas de morts prématurées. Ça arrivait en France au début des années 2000 avec beaucoup de gens qui ont décédé à cause de la canicule.
2003,
oui. Ouais. Là, on a mis en place des systèmes d'information plus importants, donc les gens, ils savent un peu mieux comment réagir quand il fait très chaud, et ça a aidé à réduire les impacts. Et après, il y a une partie qui est très importante, des maladies infectieuses qui affectent surtout les pays d'Afrique, moins les pays d'OCDE. Mais avec les changements climatiques, on ne peut pas exclure le risque que certains types d'insectes vont migrer plutôt vers l'Europe et que ça amènera aussi certains types de maladies.
Mais d'ailleurs, une étude récente du WWF soulignait que ces températures extrêmes favorisaient la résurgence donc de maladies infectieuses, comme vous le dites, mais qu'on croyait éradiquées. On a vu réapparaître des maladies récemment liées à ça.
Alors je ne suis pas une experte épidémiologique, mais les risques justement qu'il y a des maladies qui reviennent et aussi des maladies qui vont s'épandre beaucoup plus rapidement, même dans des pays de l'OCDE. Alors il faut quand même savoir que la différence entre les pays de l'Europe, par exemple, et certains pays d'Afrique, c'est qu'on a un système sanitaire mis en place déjà, qui est beaucoup plus réactif, et du coup, les impacts seront beaucoup plus mitigés dans des pays d'Europe plutôt que d'autres.
Quelles sont encore toutes vos incertitudes, les événements climatiques dont vous ne pouvez pas mesurer les effets aujourd'hui ?
Donc, tout ce qui est événements extrêmes, mais aussi tout ce qui est plus lié aux troubles civils, la migration, ça c'est vraiment trop difficile à prévoir. À créer des projections pour les décennies à venir. Et puis, les plus importants, c'est les points de basculement. Donc, tous les événements extrêmement même un peu dramatiques qui pourraient arriver et qui ne sont qu'on n'a pas pu inclure dans notre étude.
Et calculer le coût des changements climatiques sur l'économie, ça revient à calculer le coût de l'inaction des pouvoirs publics, et c'est ce dont nous parlerons dans la deuxième partie. Vous restez avec nous, Elisa Landi, on vous retrouve après le journal.